Alors, ce que nous avons médité hier avec l'évangile des disciples d'Emmaüs nous a montré que le fait de pouvoir parcourir un chemin ensemble qui aboutit à une communion profonde avec le Christ et entre nous, ou entre nous dans et par le Christ, est tout d'abord un événement de grâce. Les disciples d'Emmaüs ne l'avaient pas prévu ni préparé, et ce n'est pas eux qui l'ont réalisé. Le christianisme n'est pas un programme, un projet que nous devons réaliser. Le christianisme est une personne, le Fils de Dieu, qui vient, reste avec nous, marche avec nous et devant nous. Tout cela est grâce, une surprise qui ne finit jamais de nous surprendre. Tout est surprenant dans l'événement du Christ. Sa présence, sa parole, ses actes, son regard sur chacun de nous, son regard sur les autres, sur ceux et celles que nous, instinctivement, regardons de travers, comme les pharisiens regardaient les publicains et les publicains devaient regarder les pharisiens. Surprenant est le regard du Christ sur chacun de nous, et l'appel qu'il nous adresse, personnel, unique. Nos plaintes et mécontentements ferment nos yeux à la belle lumière du corps du ressuscité qui marche avec nous. Mais par grâce, cette beauté ne s'éloigne pas, nous accompagne, et lentement arrive à percer notre brouillard, jusqu'à la surprise totale où le mystère du Christ éclate et ouvre nos yeux. Il le fait avec un geste simple et quotidien de partage et en disparaissant. Il le fait dans la mystérieuse évidence propre au mystère du Christ, celle de se révéler comme Dieu à l'intérieur de notre humanité. Cette mystérieuse évidence qui nous surprend, Jésus la transmet par le don de l'Esprit de Pentecôte au signe et à l'instrument que Jésus-Christ nous a laissé pour perpétuer sa manière étonnante de rester et de marcher avec nous, l'Église. J'ai commencé à aimer l'Église et à me sentir indéfectiblement heureux de lui appartenir. Le jour où, alors que j'étais plein de doutes d'adolescence sur elle, plein justement de plaintes et de méfiance, comme les disciples d'Emmaüs, elle m'a surpris au moment où Paul VI passait en jeep sur la place Saint-Pierre pendant une audience du mercredi, en l'année sainte 1975, au milieu de la foule cosmopolite. L'Église m'a surpris par son mystère, en tant que mystère. Du coup, elle n'était plus une grande organisation, une grande structure, un grand enchevêtrement de règles, rites, documents, etc., mais un mystère universel, plein de beauté, qui venait toucher mon cœur par le passage d'un petit homme vêtu de blanc, frêle, souriant et bénissant. Un mystère qui m'unissait immédiatement à un peuple immense sur la place Saint-Pierre et à toute l'humanité. Après, d'autres rencontres n'ont fait que confirmer cette expérience en me la rendant plus proche, plus personnelle, plus capable d'accompagner le chemin de ma vie, de toute ma vie jusqu'à maintenant. Mais à chaque fois, c'est la surprise initiale qui se reproduit. La surprise est le renouvellement plus renouvelant qui soit. Car c'est chaque fois comme si ce qui nous surprend, ce qui nous a surpris une fois, se reproduisait totalement. Dès le commencement. Et chaque fois on se dit, surtout si les années passent, surtout si on a eu le temps de vieillir, peu ou beaucoup, mais c'est pas possible. qu'à mon âge se renouvelle la surprise que j'ai ressentie à 16 ans. Et pourtant, c'est un fait. Une expérience qu'on ne peut pas nier. Alors on comprend de plus en plus, jamais assez, mais de plus en plus, que le fondement déclencheur de la surprise est quelque chose qui ne dépend pas de nous, qui est objectivement gratuit, donné, grâce. Je me le disais il y a exactement un mois, lors de l'audience que le pape François a accordée au chapitre général de mon ordre. Je l'ai ressenti et vécu comme l'expérience d'il y a 47 ans avec Paul VI. Je souligne cela parce que si on s'attache à parler de synodalité et de chemin synodal, en dehors du sens de l'Église comme mystère, du sens donc de l'Église comme réalité qui nous fait toucher le mystère du Christ, qui nous transmet le mystère du Christ, je crois que nous n'irons pas loin sur ce chemin. Parce que la synodalité de l'Église est une dimension de son mystère, et donc de sa beauté. Non seulement et tellement de son organisation extérieure ou antérieure, de son fonctionnement. La synodalité comme la structure apostolique ou sacramentelle de l'Église, cela relève de son mystère de corps mystique du Christ et de peuple de Dieu, non seulement de son organisation ou activité. La synodalité relève de la beauté de l'Église comme épouse du Christ. Cette beauté de l'Église, si elle est transparente au mystère du Christ, elle demeure une transparence mystérieuse elle aussi, mais dans le sens d'une opacité. C'est une transparence opaque, mais qui fait partie du mystère, car c'est le Christ qui l'a voulu. Il aurait pu donner à l'Église une transparence évidente, cristalline, du mystère de sa présence. Il aurait pu choisir de donner à l'Église, que sais-je, une hiérarchie angélique, que chaque évêque soit un ange. L'évêque de Fribourg l'est, mais bon. Et même chaque curé, chaque catéchiste, etc. Il y en a tellement d'anges au chômage au ciel. Il est intéressant que Dieu donne effectivement un ange gardien à chacun de nous, à chaque pape, à chaque évêque, curé, catéchiste, père et mère de famille, etc. Mais il ne le donne pas pour nous remplacer, pour faire le chemin à notre place ou nous porter sur leurs épaules ailées. Il nous le donne pour nous accompagner. Les anges font un chemin avec nous, mais ils ne le font pas à notre place. On pourrait dire que les anges donnent une épaisseur invisible d'éternité à notre chemin ensemble. Il dilate la synodalité de l'Église jusqu'à l'invisible. On marche avec les anges aussi, comme avec entre nous. Les anges sont les bijoux de l'épouse, mais son corps est humain. Vous savez peut-être qu'il y a encore une sorte de secte pseudo-catholique en Suisse alémanique où le fondateur a été ordonné prêtre par l'ange Michel. Alors, là, justement, c'est cette tentation d'une église où l'humain est remplacé par l'angélique, disons. Donc, qui est sûrement une idée hérétique. Mais justement, le chemin synodal de l'Église, le Christ l'a voulu et commencé comme un chemin humain d'hommes et femmes. Et l'opacité humaine de ce chemin d'hommes et de femmes, de pécheurs sauvés, avec ce que cela comporte de peine et de fatigue, d'arrêt et de nouveau départ, de chute et de relèvement, fait partie de la synodalité de l'Église, du mystère de l'Église en chemin, et donc de sa beauté. L'Église est mystère aussi, et je dirais même surtout, quand elle est en chemin, non seulement dans l'état de Jérusalem céleste. Le mystère de l'Église est plutôt dans la descente de la Jérusalem céleste sur les chemins de l'histoire. Apocalypse 21, 2. J'ai vu la Jérusalem descendre du ciel. Cela a des conséquences pour comprendre et vivre la synodalité de l'Église. Au fond, il s'agit de comprendre et vivre un chemin ensemble dans l'opacité humaine qui est signe du mystère surprenant du Christ ressuscité qui marche avec nous. Il ne s'agit pas seulement de faire un chemin synodal pour sortir de l'opacité et pouvoir enfin permettre à l'Église de manifester le Christ en totale transparence, en faisant un chemin linéaire et parfait au milieu du monde perdu. Ce rêve de succès dans la réforme, s'il est parfois nécessaire pour pousser à une purification, n'a jamais vraiment d'issue, n'aboutit jamais vraiment. Pensons à tant d'élan après le Concile, à tant de communautés nouvelles, à tant de méthodes pastorales qui visaient ce succès dans la réforme de l'Église. Au fond, c'est un catharisme qui, dirait saint Benoît, en voulant trop gratter la rouille, finit pour casser le vase. Règle 64-12. C'est le conseil qu'il donne à l'abbé dans sa correction, qu'il gratte pas trop la rouille des défauts des frères, parce qu'à la fin, il casse le vase. J'aimerais alors souligner quelques aspects de la synodalité qui tiennent compte de ce que je viens de dire du mystère de l'Église, surtout pour suggérer quelques pistes qu'il me semble nécessaire suivre pour un chemin synodal vraiment fécond et qui puisse durer toujours, parce que si l'Église est par nature synodale, le chemin synodal ne doit pas s'arrêter au synode des évêques de l'année prochaine ou je ne sais pas quand. Tout d'abord, le premier aspect concerne la foi vécue dans la crise que nous traversons. Il est clair que nous connaissons une fragilité croissante. Nous avons pris l'habitude de nous sentir toujours en crise. Crise de la société, crise de l'Église, crise des diocèses, crise des ordres, crise des paroisses et des communautés, et crise personnelle sans finir. Il y a une crise, c'est certain, mais nous vivons la crise comme une accusation, comme une honte, comme si c'était notre faute. Nous nous sentons responsables, surtout si nous avons quelques responsabilités, de résoudre la crise de la réalité qui nous est confiée. Chacun cherche des solutions à la crise. Nous essayons de comprendre le secret des communautés qui ne semblent pas être en crise comme les nôtres. De temps en temps, on parle de telle ou telle méthode qui semble être le secret du succès d'une communauté, par exemple pour avoir des vocations. Ensuite, tout le monde essaye d'appliquer cette méthode, mais il est rare que le succès que nous voyons ailleurs se reproduise chez nous. Et tôt ou tard, nous constatons que cette méthode ne fonctionne pas non plus là où elle semblait être la solution magique. Tout cela trahit une approche fondamentalement erronée du problème. Notre véritable crise, qui est la crise de toute l'Église, n'est pas pour ainsi dire extérieure à nous, dans la situation que nous vivons, ou causée par des forces hostiles à l'Église. La crise est en nous, elle est dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre relation avec la vie et la réalité. Mais il ne s'agit pas d'une crise psychologique, psychique ou morale. Notre véritable crise est une crise de foi, une crise de la foi. Même à l'époque de Jésus, les gens avaient le sentiment d'être en crise. Chacun s'apercevait que les choses n'allaient pas bien, qu'un changement était nécessaire. Mais presque tous disaient que c'était la faute des Romains ou du parti opposé au leur. Les pharisiens prétendaient que les sadducéens étaient responsables de la crise et les sadducéens que c'était la faute des pharisiens. Comme c'est souvent le cas dans l'Église aujourd'hui, si on n'accuse pas les ennemis de l'Église, on accuse la tendance opposée à la propre dans l'Église. Imaginons que Jésus vienne au milieu de tout cela. Que nous dirait-il? Il chercherait, par exemple, un centurion romain, comme en Matthieu 8, 5, 13, ou une femme cananéenne, Matthieu 15, 21, 28, et il regarderait avec étonnement leur foi. Puis il nous dirait, « Écoutez, le vrai problème de l'Église, des communautés, c'est que vous n'avez pas la foi de ces personnes. Votre crise est une crise de foi. Pas tellement la crise d'une foi théorique, dogmatique, car vous êtes tous assez bien catéchisés. Mais la crise de la foi comme attitude à l'égard de moi et de votre vie. Avoir la foi ne signifie pas ne rien faire et laisser Dieu tout faire. Ne signifie pas vivre de miracles et de prodiges. Avoir la foi veut dire prendre la juste place entre la réalité et Dieu, la vie et Dieu. Aussi, prendre la juste place entre la crise que nous vivons et Dieu qui nous sauve. Il s'agit de devenir intermédiaire entre le Sauveur et la réalité à sauver, d'être ceux qui permettent à Dieu d'agir dans le monde. La foi de la femme cananéenne est la bonne position entre sa fillette possédée et Jésus. La foi du centurion est la bonne position entre son serviteur malade et le Christ. Cet homme avait une posture vraie à l'égard de son serviteur et à l'égard du Christ. D'une part, il a regardé son serviteur malade avec une grande compassion, un grand amour, et désirait passionnément son bien. D'autre part, il a regardé le Christ avec vérité, le reconnaissant comme Dieu, le reconnaissant comme le seul Sauveur qui peut guérir l'humanité, qui peut répondre aux besoins de vie et de salut qui est dans chaque homme. La foi est cette position juste entre le besoin de l'humanité et Dieu, qui est aussi notre besoin et Dieu. La foi est l'attitude juste qui permet à Dieu d'embrasser le monde, de le sauver, de le changer, de le transformer, de le renouveler. Tout ce dont nous avons besoin, tous. Si nous n'adoptons pas cette attitude de foi, rien ne se passe. Nous ne choisirons que de fausses solutions qui ne résolvent rien, au contraire, qui aggravent la situation. Lorsque nous gérons la crise de la mauvaise manière, elle devient encore plus critique. Elle devient une catastrophe. Au contraire, affronter dans la foi, c'est-à-dire dans la bonne relation avec Dieu et la réalité, entre Dieu et la réalité, le Christ, la crise devient un temps de grâce. Elle devient une occasion pour Dieu de nous montrer la miséricorde et l'amour qu'il est en personne pour nous et pour tous. Cette constatation de la faiblesse et petitesse de notre foi ne doit pas nous déprimer et décourager. Ça serait vivre notre manque de foi sans foi, n'est-ce pas? Les apôtres eux-mêmes, Jésus les a plusieurs fois repris sur ce point, et pratiquement seulement sur ce point. Il ne leur a presque jamais reproché de manquer d'amour, de cohérence, de courage, etc. Mais de foi, oui. Que de foi il leur a reproché leur manque de foi. Avec le français, ça devient un peu... Vous comprenez que je parle... C'est comme les mines, non? C'est où le père hier, qui a toujours pensé que les mines étaient les mines. Cela veut dire deux choses. Que Dieu reproche le manque de foi, seulement le manque de foi. Cela veut dire deux choses. Premièrement, que la foi dépend aussi de nous, que nous en sommes responsables. Autrement, Jésus ne nous reprocherait pas de ne pas l'avoir. Elle est une grâce, bien sûr, mais une grâce que nous sommes en mesure d'accueillir. Deuxièmement, cela veut dire que sur la foi, nous pouvons changer, nous pouvons nous convertir. Jésus ne reproche pas s'il ne sait pas que nous pouvons nous changer. Comment ? Justement en acceptant qu'avoir la foi ne comporte pas une capacité en nous, mais le fait de reconnaître notre impuissance et de la reconnaître en nous confiant au Christ, comme au Père et à l'Esprit Saint. Les petits, les humbles, les pauvres nous passent devant dans la foi, car en toute simplicité ils se confient à Dieu. La foi, c'est l'attitude qui demande avec la certitude que Dieu peut et veut nous exaucer. Demander, c'est toujours possible, n'est pas difficile ou ardu. Il ne faut pas avoir quelque chose pour demander. Justement, il faut pas avoir. C'est le contraire, non? C'est parce qu'on n'a rien qu'on demande. Demander demande seulement notre liberté, qui humblement reconnaît devant Dieu que sans lui, nous sommes impuissants et perdus. Alors nous comprenons que pour faire un chemin avec le Christ dans la foi, nous avons besoin d'une conversion à la confiance en Dieu. Nous avons besoin de regarder davantage le Christ que nous-mêmes. Comme Pierre lorsqu'il marchait sur l'eau. Dès qu'il a baissé le regard du Seigneur vers l'eau, agité par le vent, il a commencé à couler. Cette situation de Pierre est très instructive pour nous, quand il marche sur l'eau et il coule. Seulement par la puissance du Christ, Pierre pouvait marcher sur l'eau. Ça, c'était clair. Mais Pierre savait nager. D'accord, la mer était agitée, mais c'est bizarre que le réflexe de Pierre au moment de couler n'a pas été celui d'au moins essayer de nager. Non. Pourquoi il coulait comme s'il était incapable de nager? C'est que Pierre, depuis le premier jour, il avait rencontré le Christ et avait tout quitté pour le suivre, était entré, pour ainsi dire, dans une autre dimension de la vie. Il faisait encore usage de toutes ses qualités et habiletés naturelles et culturelles ou professionnelles, mais le centre de sa vie avait changé. Il avait reconnu et consenti que le centre de sa vie soit celui qui est le centre du cosmos et de l'histoire, comme commence la Redemptor Hominis. Il ne pouvait plus s'appuyer sur un autre centre, sur une autre consistance de sa vie que le Christ. Il ne pouvait pas vivre comme si le mystère de cet homme, si extraordinaire qu'il pouvait marcher sur l'eau et calmer la mer agitée, n'était pas entré dans sa vie en exigeant tout son cœur, toute sa confiance. Mais souvent, Pierre et les autres, comme nous tous, revenaient aux instincts habituels, revenaient à une vie, à des réactions, à des sentiments, à des idées propres à ceux et celles qui n'avaient pas rencontré Jésus, qui ne l'avaient pas écouté, qui ne l'avaient pas vu faire des miracles, et surtout qui n'avaient pas fait l'expérience de son amour, de son regard d'amour pour chacun. Qu'un centurion romain, qu'une femme cananéenne, pouvaient exprimer une confiance en Jésus plus grande et immédiate que la leur, cela était absurde au fond, surtout pour eux-mêmes. La conversion de la foi ou à la foi est la conversion qui, en prenant conscience des reniements du Christ que nous consommons à longueur de journée, revient vers lui en demandant qu'il reprenne pour nous, dans notre cœur, dans notre vie entière, la place du Seigneur et Sauveur qui nous a attirés, que nous avons reconnus, mais sur laquelle nous oublions de régler notre vie, de bâtir notre existence, de poursuivre notre chemin. La meilleure façon de le faire est celle de crier comme Pierre, « Seigneur, sauve-moi » Matthieu 14, 30. Qui veut dire, « Ô Christ, je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Reprends ma vie et conduis-moi sur le chemin de ta vie. » J'imagine que, après le reniement et le chant du coq, parmi les sanglots amers, ce fut ce cri, « Seigneur, sauve-moi », que Pierre a répété continuellement et du fond du cœur, jusqu'à la résurrection. Le chemin synodal de l'Église ne peut pas progresser que dans cette foi, consciente de notre faiblesse, qui mendie le salut dans une prière qui confesse que le Christ est Seigneur et Sauveur. On ne marche pas sans nous appuyer sur le Christ comme centre et consistance de l'univers et de notre vie. Pour cette raison, un chemin synodal, avant de l'organiser, il faudrait toujours le prier. Le fonder sur une attitude contemplative qui cherche le Christ du regard et lui demande de nous sauver. Un chemin synodal sans dimension liturgique, eucharistique, sacramentelle, n'est plus un chemin qui nous réunit derrière et dans le Christ. Lorsqu'on veut marcher sur le chemin que le Christ veut nous faire parcourir avec lui à sa suite dans le mystère de l'Église, cheminer ensemble n'est pas notre décision, mais est une exigence qui découle du mystère du Christ lui-même. On ne peut pas suivre le Christ et son chemin vers le Père sans le faire ensemble, sans un chemin commun. Un être ensemble qui n'est pas un simple travail d'équipe ou la qualité des relations est déterminée seulement par le but particulier qu'on veut atteindre. La dimension communautaire du chemin synodal a pour but la communion, donc une dimension qui n'est pas autre chose que la dimension communautaire, que le fait d'être ensemble, mais qui en est l'accomplissement. Cheminer ensemble est un processus qui doit approfondir et dilater le fait d'être ensemble. Le progrès est à l'intérieur de l'ensemble, non en dehors. C'est l'être ensemble qui progresse, qui fait un chemin. C'est pas qu'on fait on est ensemble pour faire un chemin, mais c'est l'être ensemble qui chemine. C'est comme creuser là où un fil d'eau sort de la terre pour laisser la source jaillir en plénitude. Le chemin synodal doit alors comporter une dimension de conversion de nos relations vers une communion de charité profonde. C'est ce que Saint Benoît promet aux moines qui décident de se fixer à la communauté monastique. Il dit, à mesure que l'on progresse dans la vie monastique et dans la foi, le cœur se dilate et l'on court dans la voie des commandements de Dieu avec la douceur ineffable de l'amour. Règle prologue 49. Comment le fait de cheminer ensemble devient-il exercice et expérience de dilatation du cœur dans la communion, dans cette douceur ineffable de l'amour du Christ? L'Église nous suggère quelques aspects essentiels de ce chemin de conversion. J'en souligne trois. Le premier est l'écoute réciproque. S'écouter, vous le savez, ne signifie pas seulement s'entendre. Une vraie écoute permet à ce que l'autre dit d'avoir un effet sur nous. La vraie écoute ne se limite pas à enregistrer. Elle permet à la parole de l'autre de se graver en nous, de nous changer, d'opérer en nous un changement. Lequel? Peut-être la parole évangélique qui décrit mieux ce changement est lorsque Jésus dit dans le sermon sur la montagne, « Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. » Matthieu 5, 41. Accepter de faire un chemin avec l'autre est la profondeur de l'écoute. J'écoute vraiment l'autre si en l'écoutant je fais un chemin avec lui. Cela veut dire que écouter vraiment signifie entendre dans la parole ou le silence de l'autre un appel. Un appel synodal, un appel à faire un chemin avec lui. Viens avec moi. Allons ensemble. Ou bien je peux venir avec toi. Nous le savons très bien que chaque fois que nous donnons des réponses qui, d'une manière ou d'une autre, ne nous engagent pas à faire un chemin avec l'autre, notre réponse ne sert à rien, n'a aucun effet. Si on ne peut pas cheminer avec l'autre, il est mieux de dire honnêtement que nous ne sommes pas en mesure de l'écouter. Et adresser cette personne à qui dans l'Église peut lui offrir une écoute qui sache recevoir cet appel et accompagner cette personne, cette communauté, cette situation, sur un chemin ensemble qui puisse être un processus de vie nouvelle. Parfois, il suffit, comment dire, que je chemine avec l'autre dans ma prière, hein, c'est pas souvent, évidemment, on peut pas se mettre à accompagner tout le monde. Mais s'il n'y a pas au moins quelque chose qui, à moi, est pris dans un chemin avec l'autre, je ne l'écoute pas vraiment, n'est-ce pas? Cette écoute ne peut pas mûrir en nous que dans la mesure où nous faisons cette expérience personnellement avec le Christ et notre communauté d'appartenance à l'Église ou à notre famille. Nous pouvons aussi nous demander, quand j'écoute l'Évangile, l'Église, je me sens appelé par le Christ à faire un chemin avec lui. Les paroles du Christ sont vraiment incisives si elle trace un chemin avec lui, un chemin à sa suite, si elles sont un appel, toujours un appel. Et après, un appel qui se résume dans l'appel « Suis-moi ». Et après, on se rend compte que ce que nous vivons avec lui, nous sommes appelés à le vivre avec notre prochain. Nous sommes appelés à écouter l'appel de Jésus dans chaque appel du prochain, du pauvre. L'écoute de la parole de Dieu, surtout de l'Évangile, est vraie. Écoute vraiment Dieu, le Christ, que si elle nous conduit à reconnaître l'appel du Christ dans la parole du prochain, ou dans le silence du prochain. Par là, nous comprenons aussi que la synodalité est essentiellement une question d'amour, de charité, comme d'ailleurs tous ceux qui concernent la vie de l'Église. Le deuxième point, deuxième aspect de conversion vers la synodalité, ou dans la synodalité, est que la synodalité est un chemin de réconciliation. Là, on touche un autre élément de la conversion synodale, justement la réconciliation. Le Christ nous a révélé que l'être est amour, que la vraie réalité de tout n'est que la charité. Dieu est amour et c'est de lui et en lui que tout consiste. Aussi dans les relations humaines, tout est tendu vers la communion éternelle de la Trinité. Quand Jésus nous demande d'aimer notre ennemi, il nous révèle que même avec mon ennemi, la relation ne peut s'accomplir que dans l'amour. L'unité, l'inimitié, la haine ne sont que manque d'amour, manque de vraie réalité. Pour cela, dans les relations de haine, trouve place tant de mensonges, tant d'hypocrisie. Pour cela, entre les pécheurs que nous sommes tous, il ne peut y avoir de chemin ensemble que s'il est un chemin de réconciliation. Là aussi, une parole du sermon sur la montagne est très éclairante. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Matthieu 5, 25. Jésus invite les deux adversaires à célébrer un synode, à profiter du fait qu'ils sont en chemin pour essayer de cheminer ensemble, non seulement physiquement, non seulement pour aller au tribunal qui rendra définitive la division entre les deux, mais pour aboutir à une réconciliation. Ce qui veut dire pour atteindre un but bien plus grand que la justice qui tranche. Le but de la communion fraternelle, du pardon réciproque, de la charité fraternelle comme chemin de vie éternelle. Pour cette raison, la dimension œcuménique est essentielle au chemin synodal de l'Église, parce qu'elle a une dimension qui est essentiellement est des réconciliations. Et pas tellement un chemin de se mettre d'accord sur certaines choses, mais de se nous réconcilier. Mais aussi la dimension de chemin de paix pour le monde est essentielle au chemin synodal de l'Église. Pour faire un chemin de réconciliation, il ne faut pas avoir résolu à l'avance nos conflits et désaccords. C'est le chemin ensemble qui peut permettre cela. Et au fond, on ne marche que pour cela, pour aller ensemble vers une communion dans le Christ qui est en personne ce qui nous unit, ce qui nous réconcilie. Notre paix véritable. Ce cela, il ne faut pas se scandaliser si le chemin synodal est plein de conflits, est plein de désaccords, de tensions. Parce que justement, c'est un chemin de réconciliation. Et on ne peut pas se réconcilier avant de faire le chemin. Donc c'est évident qu'il faut apporter nos divisions dans le chemin. Non? Et seulement, c'est quand on apporte, on vit nos divisions et nos conflits dans le chemin, nos divisions marchent vers la solution, vers la communion, vers la réconciliation. Le dernier point concerne plutôt la mission. Quand on vit le chemin synodal de cette manière comme chemin de réconciliation, alors il devient mission, c'est-à-dire témoignage de communion dans le Christ qui nous unit par sa présence partagée comme le pain de l'Eucharistie. C'est l'énergie nouvelle des disciples d'Emmaüs dont je parlais hier. Ils courent pour témoigner, pour annoncer que le Christ est vivant et demeure avec nous, marche avec nous. Dans ce sens, le chemin synodal de l'Église coïncide avec sa mission, coïncide avec son rayonnement, et donc avec sa beauté d'épouse du Christ. Parce que si on fait un chemin synodal, on annonce que le Christ est présent. On ne restaure pas la beauté de l'Église par un maquillage et même pas par je ne sais quelle purification. La purification et réforme constante de l'Église se fait comme pour les disciples d'Emmaüs, en cheminant avec le Christ, en l'écoutant, en faisant expérience de l'amour ardent de sa présence, de son regard. Toute la beauté de l'Église est dans l'époux qui continue de l'aimer, malgré tout. Cela rend l'épouse toujours féconde, toujours mère d'une humanité nouvelle, rachetée, d'une humanité rachetée, pascale. La mission de l'Église doit repartir d'une mystique, doit repartir du cantique des cantiques. Là où la bien-aimée n'est pas parfaite, elle est pleine de défauts, elle est paresseuse, elle est souillée, elle n'est pas sans tâche, et pourtant, elle rayonne son amour, sa passion pour l'époux, parce que l'époux continue de l'aimer, de la chercher, de la vouloir, de la désirer. Dans une époque où l'Église avait autant de problèmes qu'aujourd'hui, sinon plus, Saint Bernard de Clairvaux, tout en s'occupant, et presque trop, de la réformer, n'arrêtait pas de méditer et de commenter le Cantique des Cantiques, donc de puiser son sens de l'Église dans une mystique de relation sponsale avec le Christ. Il ne faudrait pas négliger cette source, ce sens mystique de la beauté de l'Église, de la beauté de la Mère qui nous apprend et nous pousse à marcher ensemble. Je crois que ça doit être vraiment une préoccupation pour nous d'affirmer la beauté de l'Église, de la retrouver, de ne pas en douter, malgré toutes les souillures dont elle peut se couvrir, parce que c'est une beauté qui vient du regard du Christ et non d'elle-même. Et on ne réforme pas jamais l'Église sans faire sortir, la purifier pour qu'elle sorte sa beauté, qu'elle ne perd jamais, non? La beauté d'épouse du Christ. Lors de l'audience que le pape François a accordée au chapitre général de mon ordre il y a exactement un mois, il a beaucoup insisté pour que nous regardions le Christ ensemble. en jouant sur le sous-titre de l'ordre cistercien, qui c'est de la commune observance, il nous a invités à cultiver la communion en observant ensemble Jésus, à vivre, je cite, une commune observance du Christ. Cela, ça nous a impressionné un peu, ça nous a réjouis parce que on n'aime pas tellement quand on dit que nous sommes de la commune observance, parce que ça nous distingue de la stricte observance des trappistes, non? Comme pour dire, vous êtes la commune, l'observance ordinaire, comme ça, et là, le pape, non, il a dit commune, donc l'observance de communion, hein, et observance, c'est observer, non? Ça change tout, n'est-ce pas? Et puis, il a terminé en disant, vivez la commune observance du Christ. Alors maintenant, je dirais toujours, je suis de l'ordre cistercien de la commune observance du Christ. Je serais fier de le dire. Alors, il nous a dit, justement, de vivre une commune observance du Christ. Puis il a ajouté que cette commune observance du Christ implique un engagement constant de conversion pour passer de moi fermé à un moi ouvert, d'un cœur centré sur soi-même à un cœur qui sort de lui-même et va à la rencontre de l'autre. Et ceci, par analogie, s'applique également à la communauté. Passer d'une communauté autoréférentielle, ça c'est du pape François, comment dire, vraiment, tout. Passer d'une communauté autoréférentielle à une communauté extravertie, dans le bon sens du terme, accueillante et missionnaire. C'est le mouvement que l'Esprit-Saint cherche toujours à donner à l'Église en travaillant dans chacun de ses membres et dans chacune de ses communautés et institutions. C'est un mouvement qui remonte à la Pentecôte, le baptême de l'Église. Jusqu'ici, un passage du discours du pape du 17 octobre, que vous trouvez sur le site du Vatican. Une communauté, une église accueillante et missionnaire. Cela me fait beaucoup penser, ces deux termes que le pape nous a dit. Il suffirait de penser à la mission de l'Église en tenant ces deux termes unis pour saisir tout l'enjeu et la beauté de cette mission dans le monde. Accueil et mission vont toujours ensemble. Sinon, ils perdent leur vitalité, leur sens, leur beauté. L'Église vit une mission qui accueille et un accueil qui sort chercher et sauver ce qui est perdu. Il y a là aussi la complémentarité du féminin et du masculin, de la maternité et de la paternité dans la vie de l'Église, à mon sens. Il faut toujours retrouver l'équilibre entre ces deux dimensions d'un même amour, de l'amour du Christ. Accueil, mission, c'est-à-dire accueillir, sortir pour chercher. Il faut toujours examiner son accueil à la lumière de la mission et examiner la mission à la lumière de l'accueil. Cela pour demeurer dans une vie ecclésiale qui soit l'œuvre de l'Esprit plutôt que la nôtre, qui soit Pentecôte plutôt que Tour de Babel.